OK, parfait. On va prendre un pas de recul sur le coronavirus. On va essayer de regarder ça là, en respirant par le nez avec notre ami Patrick Derry, analyste en politique publique. Salut, Patrick.
Salut, Patrick. Et toi, est-ce que tu te sens vert, jaune, orange, rouge aujourd'hui?
Bien, sais-tu quoi, je dois te dire? Moi, ça vient me chercher. Le message qui a été martelé cette semaine. J'avais de quoi de prévu ce soir. Avec des amis, avec un couple d'amis, puis on a décidé de ne pas le faire. Parce que tu te dis, bon, écoute, on veut-tu jouer dans ce film-là? Non. Donc, moi, ça vient me chercher. Après ça, c'est sûr que comme disait Philippe, Patrick, quand ça ne monte pas si vite dans les hôpitaux, c'est sûr que tu peux rationaliser bien des comportements qui sont plus risqués.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'impression que ça me donne aussi, là, c'est-à-dire que c'est quand tu as les deux mains dans les chiffres à chaque jour, puis là, je continue de faire des courbes, puis là, il a fallu que je relève mon graphique parce que Québec est en train de sortir de la zone rouge. Là. C'est un peu drôle à dire, là. Il n'y a plus de place. Fait qu'il a fallu que je le remonte. C'est très, très concret. Les hospitalisations, c'est mine de rien, là, il y en a eu presque 70 de plus cette semaine seulement. C'est quelque chose qui n'avait pas bougé pendant des semaines. Mais moi, j'ai l'impression, là, dans une grande partie de la population, là, c'est un petit peu flou. Un petit peu flou tout ça. Puis pourtant, il y a un mois, toutes les régions du Québec, sans exception, là, jour pour jour, étaient dans le vert. Là, aujourd'hui, il y a les trois quarts de la population du Québec qui vivent dans une région qui est classée orange. On est passé d'à peu près 10 cas par million par jour en moyenne à plus de 60 cas. Le nombre de nouveaux cas double au 10 jours et c'est pas juste les cas, il y a le taux de positif aussi.
C'est quoi ça, le taux de positif?
C'est le nombre de cas positifs, de personnes qui sont testées positives sur le nombre, soit le nombre de tests ou le nombre de personnes qui sont testées. Et
attends, je t'arrête. Donc, ça, ce que tu me dis là, ce que tu viens de m'expliquer là, en termes simples, ça coupe l'argument selon lequel, OK, oui, il y a plus de cas, mais c'est parce qu'on teste plus. C'est que le pourcentage des gens qui sont positifs dans le nombre de tests qu'on fait, bien, lui aussi augmente.
On a beau tester plus, le nombre de cas qu'on trouve augmente plus vite que le nombre de tests.
Okay.
En un mois, un peu plus, ça a quadruplé.
OK.
Donc, c'est une augmentation qui est réelle. Évidemment, là, on priorise les tests pour que les gens, à un moment donné, qui ont eu des contacts vont se faire tester, mais malgré tout, là, la hausse est réelle.
OK. Là, Montréal est au orange, la grande région là, de Montréal, au nord jusqu'à Saint-Jérôme, c'est au orange. Québec est au orange très foncé. D'après toi, on passe au rouge dans combien de temps, Montréal?
Moi, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui a des contacts à la ville, puis dans un des grands syndicats, puis dit que le message a déjà été passé, que Montréal se prépare au rouge parce que la tendance est inévitable. J'ai pas pu confirmer.
Je dois te dire, Patrick, moi aussi, j'ai ces échos-là. Mais en même temps, il faut se méfier là, au printemps. Là, j'avais les mêmes échos qui me disaient ils vont fermer Montréal. Mais c'est sûr qu'il y a des scénarios là, qui sont dans des cartons.
Oui.
Les scénarios sont en train de sortir.
Puis le nombre d'éclosions aussi est en train d'augmenter aussi. Il y a plusieurs indices sur le terrain qui donnent à penser que c'est en train d'augmenter pour vrai. Là, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est dans le rouge? Puis là, il y a comme une dichotomie. Ça dépend si tu regardes le plan là, ou si tu regardes le gouvernement. Si on regarde le document qui a été présenté la semaine dernière, là, qui détaille les différents paliers, dans le rouge, ce qui est interdit, les rassemblements privés pourraient être interdits, les soins personnels, les bars, les restaurants fermes, sauf pour les commandes à emporter dans le cas des restaurants, puis plus de sport de contact. Aujourd'hui, dans le point de presse, c'était plus, ça dépend. Puis, tu sais, le docteur Arruda a dit essentiellement qu'il n'y avait rien de coulé dans le béton, que la santé publique a fait des évaluations cas par cas. Il a répété aussi, il a insisté là-dessus d'ailleurs, que le passage d'un seuil à l'autre, de jaune à orange, d'orange à rouge, c'est en fait le passage des seuils chiffrés n'entraînait pas nécessairement un changement de couleur. Puis s'il y avait un changement de couleur, ça n'entraînait pas d'interdiction de fermeture automatique.
J'ai l'impression qu'ils vont beaucoup au pifomètre malgré les couleurs.
Ouais, je pense que moi, ils veulent absolument pas retourner en confinement.
C'est clair.
Et le ministre dit que c'est une stratégie de communication aussi pour que ça soit plus clair. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu agisses. Puis là, présentement, on fait un petit peu comme la stratégie de la France, c'est-à-dire qu'il y avait une zone d'alerte à un certain seuil. On arrivait en zone rouge. Puis là, la zone rouge est franchie. Alors, on a fait un appel solennel aux gens à faire attention. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le ministre Dubé. Et ça continue de monter. Là, en France, c'est beaucoup plus élevé qu'ici présentement. C'est plus de 10 fois plus de cas qu'on a présentement, à toute proportion gardée. Bien, ils ont créé une zone de super rouge ou rouge écarlate. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Moi, Patrick, je pense qu'on devrait regarder.
Je veux qu'on parle de Dr Arruda. Dr Arruda en a échappé une en point de presse là, quand il a dit cette semaine « Oui, on est en train d'étudier des scénarios pour que la police puisse rentrer chez les gens sans mandat. » Évidemment, tout le monde a jumpé. C'est un peu ce qui nous distingue des dictatures, ça, que la police ne peut pas rentrer chez vous sans permission des tribunaux, par exemple. Comment tu le trouves de ce temps-là, en général?
Bien, tu sais, quand M. Dubé parle, on comprend où il s'en va. De façon générale, là, je veux dire, c'est assez clair, les messages. Là, pour les solutions aujourd'hui, là, c'était peut-être un peu plus flou, là, mais tu sais, il répète ces choses, c'est très clair. Quand Dr Arruda ajoute des précisions, ça ajoute plus souvent de la confusion. Il y a eu cet exemple-là. Il y en a eu d'autres cette semaine. Mercredi aussi, il a dit une chose qui était assez étonnante. Une journaliste lui a demandé pourquoi il n'y avait pas eu d'isolement rétroactif des voyageurs de retour de la semaine de relâche. Et pour rappel, on avait demandé aux gens de rester chez eux, là, je pense que c'est autour du 13 mars, pour deux semaines, mais on n'avait pas demandé à ceux qui étaient revenus moins de deux semaines avant de rester chez eux aussi. Et la réponse de Dr Arruda dit qu'il ne pouvait pas faire ça parce que il y avait des travailleurs de la santé là-dedans et qu'on avait besoin d'eux pour donner des soins et qu'on pensait pas que les asymptomatiques étaient contagieux. Et ça, c'était gênant pour trois raisons. La première, c'est qu'on savait au moins depuis février qu'il y en avait de la transmission chez les asymptomatiques. Il y a eu plein d'articles.
Quand tu dis « on le savait », peut-être pas le grand public, mais dans le milieu de la santé publique, là, je me souviens que Fauci en avait parlé fin janvier, je pense.
Oui, absolument. Puis il y a eu plein d'articles, dans la presse aussi, des médias, ceux qui, évidemment, tout le monde ne lisait pas ça dans le détail, mais c'était très accessible. Et c'est pas parce que le docteur Arruda ne savait pas à ce moment-là qu'il aurait pas dû le savoir. Hein, est-ce qu'il y a une revue de presse à la direction de la santé publique? Est-ce que docteur Arruda l'a lu? Ça, c'est la première raison. La deuxième, les travailleurs de la santé, il y en avait qui présentaient des symptômes. Docteur Drouin, la patronne de la santé publique de Montréal, l'avait signalé. On l'a vu dans un reportage à Radio-Canada. Elle avait demandé l'isolement à ces travailleurs-là qu'ils soient rétroactifs, fait qu'on mette en congé pas juste ceux qui revenaient à ce moment-là, mais ceux qui étaient revenus avant. Et la troisième raison, c'est que Dr Arruda lui-même, dans un échange de courriel qui était rendu public, avait dit oui à cette demande-là, à l'isolement rétroactif, sauf qu'il ne l'a pas mis en place. Fait que la réponse de cette semaine était, tu sais, on ne savait pas. Ça passe un peu mal. Puis il y a d'autres erreurs de communication. Hein, t'sais. Au début février, là, il a dit là, qu'on devait avoir plus peur de la grippe alors qu'on avait déjà des cas dans plusieurs pays d'Asie, d'Europe, d'États-Unis, dans deux provinces canadiennes. Il y a eu l'épisode de l'immunité collective.
Oui, qui a été la stratégie du gouvernement un jeudi, puis on n'en parlait plus rendu le lundi.
Écoute, c'était fantastique. Après ça, le Dr Arruda a maintenu pendant des semaines que le port du masque dans les lieux publics pouvait être dangereux et qu'on pouvait s'auto-contaminer avant de retourner sa veste. Mais, en fait, c'était pas très constant, mais deux, ça montrait aussi qu'il semblait lui-même pas faire la différence entre l'utilisation du matériel de protection dans une zone chaude d'un hôpital puis garder tes crachats pour toi quand tu t'en vas chez Jean Coutu. Fait que, tu sais, après six mois, là, sur le plan de la communication, il semble pas toujours maîtriser ses dossiers. Puis il y a un principe important en communication, là, garde deux, trois messages puis reviens-y tout le temps. M. Dubé a compris ça rapidement. Dr Arruda fait des points de presse depuis six mois puis ne semble pas le comprendre encore. Moi, je me demande s'il y a encore sa place dans les points de presse. Là, en temps de crise, ça prend un interlocuteur qui est crédible, une communication qui est claire et constante. Disons que le Dr Arruda est peut-être un petit peu mélangé des fois.
Écoute, penses-tu qu'on gagnerait à ce que Dr Arruda soit là moins souvent, mais qu'il soit là pour les moments les plus clés?
Moi, je pense que ça prend un interlucteur, le même. Tout le temps. En Colombie-Britannique, c'est le Dr Henry, presque toujours. Des fois, le ministre de la Santé fait des interventions. Peu importe c'est qui la personne, un, que ça soit la même, qu'on sache à quoi s'attendre, mais deux aussi, qu'il y ait une unicité dans le message. Parce que là on a une personne qui parle, on a une personne à côté qui va répondre à d'autres questions, puis là, ça va dans un sens puis dans l'autre. Là, des fois, le premier ministre revient, des fois, tu as la ministre de la Sécurité publique, puis à un moment donné, là, ça fait beaucoup de gens, puis ça finit par devenir difficile à suivre.
Ça fait beaucoup de bruit sur la ligne.
Beaucoup de bruit sur la ligne, puis en plus, les messages ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Fait que la livraison du message change, mais en plus, les messages changent aussi, puis c'est normal, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont toutes des choses à faire. Si c'est une personne, à un moment donné, qui a à prendre ça en main, là, ben, elle va se rappeler de ce qu'elle va avoir vu la veille.
Très bien. Merci beaucoup, Patrick.
Bonne fin de semaine.